deux nouveaux EPR, c'est Gravelines dans le Nord. Mais on sent bien, enfin, il y a eu un article qui a circulé, je ne sais plus si c'était issu de Mediapart ou ailleurs, mais qui racontait un peu comment se fait le débat. En fait, il y a des communicants qui sont à la tribune, là, quand on pourrait l'être, et qui, eux, parlent beaucoup. Et les opposants ou ceux qui veulent poser des questions ont droit timidement de lever le doigt une fois de temps en temps. Et puis, et voilà, donc c'est comme ça que le débat se fait, quoi. Donc en fait, en termes de. C'est pas démocratie, enfin c'est pas voilà. C'est-à-dire que de toute façon, sur ces projets-là, nous ne sommes pas consultés et notre moyen de les arrêter ou de nous y opposer n'est que lié à la lutte. Alors quel genre de lutte est-ce qu'on peut envisager? On voit bien que les sites des centrales, ce sont des sites qui sont défendus comme si c'était des sites militaires. Ceux qui ont essayé de s'approcher de Cresmalville il y a bientôt 40 ans se souviennent qu'ils ont été mal reçus. Et donc on peut imaginer que tous les sites des centrales aujourd'hui, ce serait à peu près du même ordre. Donc c'est pas une bonne idée. En revanche, là où il y a des fragilités et des points d'attaque possible pour une lutte contre le nucléaire, ce sont les flux, c'est-à-dire tout ce qui va alimenter en combustible à utiliser ou combustible usagé, les transports et le fait de savoir comment ils circulent en permanence sur le territoire. C'est des choses qu'on peut éventuellement tenter de bloquer et de mettre en évidence, parce qu'il y en a, énormément. Et puis, il y a la question des déchets. Il faut savoir que, en fait, les lieux de stockage, la manière dont sont gérés les déchets, c'est évidemment extrêmement important. Et, en fait, les lieux de stockage, chaque centrale stocke, dans un premier temps, ses propres déchets, notamment les combustibles usagés pendant quelques années, le temps qu'ils soient qui redescendent un peu en température. Puis après, quand ils sont transportables, ils sont stockés à La Hague. À La Hague, en fait, il y avait une piscine de refroidissement dans laquelle il y avait un certain nombre de normes pour l'espacement entre les différents colis. Et puis, à mesure que ça se remplissait, s'il n'y a plus de place, bon, ben, on va réduire un petit peu la norme. Donc, on les a rapprochés. Comme ça, on a pu en mettre plus. Et puis, c'est à nouveau plein, évidemment. Et donc, il y a le projet de construire une nouvelle piscine de refroidissement à La Hague. Et là, les gens du Nord-Cotentin, qu'on a beaucoup accepté du nucléaire, et ils ont des beaux lampadaires dans toutes les communes du pays, ils sont contents, ils commencent à se dire que ça fait beaucoup. Et puis, on va y venir, mais en deuxième, en fin de chaîne, entre guillemets, il y a un moment où il faut entreposer les déchets à vie longue, très très longue parfois, hein, 24 000 ans pour le plutonium, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Donc c'est un peu plus long que nous. Et donc là, c'est pour ça qu'il y a ce projet de site d'enfouissement à Bure, pour lequel je crois que la France est à peu près le seul à avoir choisi cette solution, mais tu pourras en parler. Et donc là, on voit que si on arrive à s'opposer et à faire échouer ces projets, on peut menacer durablement, sérieusement, l'industrie nucléaire dans son ensemble. Je rappelle que c'est un peu comme ça que les nucléaires allemands, les anti-nucléaires allemands plutôt, ont réussi à mettre en échec l'industrie nucléaire allemande et à contribuer fortement par leur action à la mise à l'arrêt de l'électronucléaire allemand. À savoir qu'ils se sont mobilisés contre les transports, contre les convois. Donc on a souvent parlé des trains Castor, donc qui partaient de La Hague, de la Normandie, pour aller en Allemagne dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, en travaillant sur à empêcher, à enrayer le déplacement de ces convois, en obligeant l'État à mobiliser de plus en plus de forces de police, en rendant ces convois de plus en plus chers, ils ont contribué à rendre ces convois, effectivement, l'État allemand a considéré que c'était trop cher, et c'est une des raisons qui a contribué à la mise à l'arrêt du programme allemand. Donc on voit que il y a des modes d'action qui sont possibles. contre ces différents moments où le nucléaire, que ce soit sous forme de combustible ou de déchets, sort des lieux des lieux des centrales et où il est sur le territoire. Pour les transports, alors c'est évidemment tenu très secret et on sait que les trajets sont communiqués très très tardivement et que on n'est même pas tenu de tenir informer les maires des communes qui sont traversées par des véhicules, parce qu'il y a des camions hein, qui transportent des combustibles usagés ou pour les amener aux centrales, ainsi de suite. Donc les maires, on n'est pas tenu de tenir informer les maires des communes. Les voies ferrées sont empruntées et circulent. Par exemple, on sait que en parallèle à une des voies du RER B à Paris, donc qui est quand même un des modes de transport les plus employés en région parisienne par tout un tas de personnes, il y a des trains qui circulent et qui peuvent éventuellement stationner, parfois plusieurs heures. Il y a des vidéos qui ont été réalisées avec la CRIRAD, et un des ingénieurs de la CRIRAD qui s'appelle Bruno Charréron. C'est un film qui a été fait par France 3. Vous pouvez chercher, c'est visible sur YouTube, France 3, CRIRAD, Bruno Charréron. Et en fait, on le voit avec un appareil pour mesurer les radiations. Et donc, ils suivent un camion qui transporte du combustible. Et donc, ils mesurent d'abord la radiation naturelle, qui y a un peu partout. Donc, je crois qu'il a une mesure de je crois que la mesure naturelle, c'est autour de, entre 60 et 50 et 100 becquerels, je crois. Je ne sais plus très bien. Enfin, voilà. Il y a une unité de 50 à 100, disons, ce qu'on mesure naturellement. Donc, voilà, il a, à tel endroit, on est à 60. Et puis, il se rapproche du véhicule. Et en le dépassant, ce chiffre monte à 1600. Alors, bon, si on passe une seconde à côté, il ne va pas se passer grand-chose. Mais si, sans le savoir, on reste déjà plus longtemps, c'est déjà plus embêtant. Il faut savoir que ces camions, de temps en temps, les chauffeurs se reposent sur des aires d'autoroute. C'est côté poids lourd. Donc après, nous, avec nos petites voitures, on n'y va pas. Mais peut-être qu'un chauffeur de poids lourd est en train de faire sa sieste et qu'il va rester 4 heures à côté de ce truc-là. Autre exemple comme ça qui est assez frappant, il a été rapporté qu'à une époque, alors depuis, il y a eu un peu d'informations de fait là-dessus, mais que les convois de déchets, de combustibles irradiés, une fois qu'ils sont un peu redescendus en température, mais je crois qu'ils sont encore à 400 degrés, donc parfois s'arrêtent aussi sur les gares de triage, à Valence, voilà, dans la vallée du Rhône. Et il arrivait que les cheminots qui travaillaient fassent leur pause cigarette en hiver, pas très loin, parce qu'il faisait assez chaud quoi, à côté du truc. Donc les gars, ils étaient bien. Plutôt que d'avoir froid pour fumer la cigarette, ils étaient à côté d'un wagon, pas très loin. Et quand même, on a fini par leur dire qu'il valait mieux éviter, que c'était pas très bon. Mais là, c'était quand même des situations, je ne saurais pas donner les ordres de grandeur et de durée, mais sur des expositions assez courtes, on pouvait déjà recevoir l'équivalent de ce qui est admissible en une année. Donc il y a des transports de matières radioactives qui circulent sur tout le pays régulièrement. À Drancy, il y avait un train qui s'était couché quand même. Il y a eu un certain nombre d'accidents, sans gravité pour ce qui était dans les colis. Mais rien n'interdit que ça puisse avoir lieu un jour, quoi. Donc c'est quand même des choses qui circulent en permanence dans le pays. Et donc effectivement, la part terminale entre guillemets de cette industrie, de cette grande chaîne, c'est le stockage des déchets, dont certains ont des durées de vie extrêmement longues. Et le projet actuel CIGEO à Bure avance petit à petit avec des stratégies complexes et d'une certaine efficacité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, en tant que militants, souvent on découvre une cause, on redémarre un peu à zéro, tandis que toutes ces technostructures, eux, ont de la mémoire. C'est-à-dire qu'ils notent ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi tel projet a été refusé, pourquoi ce qu'il a dû être abandonné, avec quelle forme de lutte il a été abandonné. Et ils essayent de s'adapter à ça et de trouver de nouvelles formes pour faire valider les projets. Donc là, on a avec nous quelqu'un qui vit du côté de Bure et qui est impliqué dans ces... dans ces luttes et qui peut-être va nous faire un petit point sur, sur ce qui se passe actuellement là-bas et comment, comment les choses évoluent.
Oui, donc du coup, Bure, c'est la frontière entre la Meuse et la Haute-Marne, donc en Lorraine-Champagne-Ardenne. Et le projet CIGEO, donc le projet de poubelle nucléaire, c'est un projet qui est porté par l'ANDRA, donc l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Et c'est un projet qui date depuis que les centrales nucléaires existent, on va dire, puisque l'industrie nucléaire ne sait pas quoi faire de ces déchets et a toujours essayé de trouver des solutions un peu bizarres, de un moment projeter de peut-être les envoyer dans l'espace ou les jeter dans l'Atlantique. Et il y a eu des projets de centres de stockage des déchets nucléaires un peu partout en France dans les années 80-90. Et au final, depuis une trentaine d'années, le projet maintenant est à Bure. Donc c'est un projet d'enfouissement des déchets nucléaires hautement et moyennement radioactifs. Et l'idée, c'est de les enfouir à 500 mètres sous terre, dans l'équivalent du métro parisien en termes de galeries, donc un peu plus de 200 km de galeries. Et donc du coup, c'est une lutte qui a un peu plus de 30 ans et qui a pris différentes formes. Donc si l'ANDRA a choisi de mettre les déchets à Bure, c'est parce qu'il y a 6 habitants au kilomètre carré. Et donc du coup, ça peut faire une mobilisation plus faible par rapport aux autres endroits où ils ont essayé de s'implanter. Une autre stratégie qu'ils ont choisie pour enfouir les déchets nucléaires, c'est de dire que ce n'est pas le projet d'enfouissement des déchets nucléaires, c'est un laboratoire de recherche. Donc quand ils sont implantés, c'est ce qu'ils disaient, c'est comme ça qu'ils ont pu acheter les élus et la population en disant que c'était que de la recherche dans des galeries d'argile, mais il me semble qu'ils n'ont pas fait d'autres laboratoires en France, donc c'était de la recherche absolument pas comparée, enfin, c'était de la propagande pour que le projet s'implante petit à petit. Et aussi ils ont mis pas mal d'argent public dans les projets du département. Enfin, chaque année, il y a 30 millions d'euros qui vont à la Meuse et 30 millions d'euros qui vont à la Haute-Marne. Donc c'est ce qui s'appelle le groupement d'intérêt public, le GIP. Et c'est une forme de corruption parce que le projet n'a toujours pas été validé aujourd'hui en 2024. Et il y a plein d'argent en salle qui est déversé pour refaire les lampadaires, pour refaire les églises, pour créer des super salles des fêtes alors qu'il n'y a que 50 habitants dans les villages, etc., etc. Donc c'est plein de stratégies différentes qui ont été mises en place ces dernières années pour faire en sorte que la population accepte le projet et ne se révolte pas. Et il y a eu aussi beaucoup de promesses d'emploi avec le labo. Mais quand même, ça fait quand même 30 ans de lutte où il y a eu énormément de manifestations, énormément de pétitions les premières années, énormément de tractages, énormément d'engagements citoyens dans les premières années. La situation actuelle à Bure, c'est qu'il y a plusieurs maisons qui sont achetées, plusieurs maisons collectives, dont l'ancienne gare de Luméville, qui a été achetée il y a une vingtaine d'années, donc c'est une ancienne gare, mais la voie ferrée n'existe pas actuellement, c'est une ancienne voie ferrée qui a été fermée dans les années 70, et si cette maison a été achetée il y a un peu moins de 20 ans, c'est parce qu'elle est sur l'ancien tracé de la voie ferrée que l'ANDRA souhaiterait réhabiliter pour acheminer les déchets radioactifs. Donc ça a été clairement acheté pour faire barrage au projet au moment où ça avancerait, et on est dans cette situation actuelle. Donc il y a ce lieu-là qui est habité à l'année, où il y a des événements qui sont organisés, et il y a aussi d'autres lieux comme la maison de résistance de Bure, ou comme l'Augustine, qui est une maison plutôt à usage agricole, qui jongle avec un champ de maraîchage qui est travaillé à l'année par le collectif des semeuses. Donc ça, c'est la situation actuelle. Mais on a un peu plus parlé de Bure il y a quelques années, en 2016-2018, parce qu'il y avait une forêt qui était occupée, le Bois-le-Jus, parce que l'ANDRA a besoin d'une forêt pour son projet, parce qu'en fait, elle sait très bien qu'il y aura des échappements de gaz radioactif à travers les galeries. Donc du coup, il y a besoin que ces cheminées d'aération soient au niveau d'une forêt. Donc du coup, pour ralentir le projet et pour freiner CIGEO, la forêt du Bois-le-Jus a été occupée trois fois, en 2016, en 2016 jusqu'en 2018, et une troisième fois en 2019. C'est, en tout cas, c'est une occupation qui a permis de ralentir le projet au moins de 7 ans. Enfin, le calendrier de l'ANDRA a été pas mal perturbé à ce moment-là, et ça a aussi beaucoup médiatisé la lutte, et pas mal de personnes sont venues s'installer aussi à ce moment-là. La lutte, je disais qu'il y avait plusieurs lieux actuellement. On organise pas mal d'événements pour inviter des personnes à se renseigner, à faire des manifestations, des mobilisations. Cette année, par exemple, on avait organisé une semaine antinucléaire en avril qui avait rassemblé 150-200 personnes. Au mois d'août, plutôt au niveau associatif, il y avait le festival des burlesques qui était organisé, mais qui, je pense, là, a réuni plus de 1000 personnes, peut-être 2000 sur le week-end. Et début septembre, il y avait la fête des barricades qui était organisée à la gare de Luméville. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'ancienne gare de Luméville, qui est une propriété, va être menacée d'expropriation à un moment, puisque l'ANDRA va en avoir besoin pour acheminer les déchets radioactifs. Et en fait, on répond à ça avec des barricades, parce qu'on sait qu'on ne va pas s'arrêter au recours juridique et qu'il va falloir intensifier la lutte. Sinon, au niveau des mobilisations, donc on organise régulièrement des manifestations. Et au niveau national, il y a eu ces dernières années plusieurs appels à action contre des sous-traitants du projet CIGEO, dont dernièrement POMA, qui est impliquée. Donc POMA, c'est une entreprise montagnarde qui crée des téléphériques pour les pistes de ski principalement, et en fait qui est aussi sur le projet de descenderie des déchets nucléaires, donc un téléphérique de déchets nucléaires. Donc du coup, il y a eu pas mal d'actions menées pour dénoncer ça, notamment dans les Alpes, dans les Vosges, sur Toulouse et Grenoble. Donc voilà un petit peu. Et Bure aussi, il y a eu pas mal de répression ces dernières années, à partir de 2017, et notamment 2018-2019. Donc avec l'expulsion du Bois-le-Jus le 22 février 2018, il y a eu une militarisation extrême du territoire, avec énormément de contrôles de police, enfin de gendarmes, énormément de procès, d'arrestations, quelques personnes qui ont été en prison. Et il y a eu une association de malfaiteurs aussi pour des motifs complètement absurdes, mais en fait pour tuer la lutte antinucléaire il y a quelques années, quoi. Donc du coup, il y a vraiment eu une militarisation du territoire qui passe depuis 2017 par la présence permanente d'un peloton de gendarmes mobiles. Donc 80 gendarmes mobiles sont en permanence stationnés au laboratoire de l'ANDRA. Et il y a aussi des gendarmeries dans le coin qui se construisent, qui préparent la répression des années à venir. Donc ça, c'est un petit peu le paysage. Et au niveau autorisation, donc aujourd'hui, il n'y a pas de déchets nucléaires à Bure. Le projet n'est pas autorisé pour le moment. Mais en 2022, CIGEO a eu son utilité publique. Donc la DUP est passée. Ce qui signifie que le projet d'utilité publique n'est pas encore autorisé, mais tous les projets connexes peuvent s'entreprendre. Donc ça veut dire que c'est possible pour l'ANDRA de construire la voie ferrée qui acheminerait les déchets radioactifs. C'est possible de défricher le Bois-le-Jus aux deux tiers dont j'avais parlé tout à l'heure. C'est possible de faire des déviations de route, c'est possible de faire le gros transformateur électrique pour CIGEO. Enfin, beaucoup de projets sont possibles dès aujourd'hui. sans que Cigéo ne soit déclaré légal. Donc nous, on appelle ça la stratégie des petits pas, c'est que l'ANDRA avance à très long terme sur plein de projets liés à Cigéo pour affaiblir la mobilisation et pour dire bah, en fait, on a déjà commencé sur tellement de parties du projet, on ne peut plus faire marche arrière. Donc on en est là. Donc l'autorisation du projet, donc le dossier d'autorisation de construction de Cigéo a été déposé en 2023. C'est un dossier qui fait 30 000 pages et qui parle de la faisabilité technique du projet. En vérité, c'est un projet qui a énormément de failles, qui a déjà été critiqué par la CRIRAD récemment, et l'autorité environnementale a aussi émis un avis négatif vis-à-vis du projet. Donc si l'autorisation de Cigéo se ferait, ce serait pas avant 2027, mais en attendant, il y a énormément d'étapes qui sont actuellement en train d'être avancées par l'ANDRA. Depuis cette année, l'ANDRA avance sur les expropriations. Donc tout à l'heure, je parlais du champ des semeuses qui est concerné, et je parlais de l'ancienne gare de Luméville qui est concernée. Mais en tout, il y a 300 propriétaires qui sont concernés pour 550 parcelles concernant les expropriations. Et là, on est en phase de négociations de prix, d'échanges avec l'ANDRA. Et après cette phase administrative, on avancera sur la phase d'expropriation qui amènera d'ici quelques temps à l'expulsion du champ des semeuses, des autres champs concernés, des agriculteurs du coin et de l'ancienne gare de Luméville. Donc on s'attend à une intensification de la lutte et de la répression. Actuellement, il y a aussi une enquête publique qui commence d'ici quelques jours concernant la construction d'un nouveau bâtiment de gendarmerie au laboratoire, parce que les gendarmes sont parqués dans des bungalows et c'est pas suffisamment écolo, c'est pas suffisamment ergonomique pour leur petit confort, donc ils vont avoir un nouveau bâtiment, deux nouveaux bâtiments qui en plus vont être augmentés de services informatiques et de nouveaux systèmes de surveillance sur le territoire. Donc plus de répression parce qu'un état nucléaire est forcément policier. Et actuellement, il y a aussi un autre projet qui est en cours. Donc on en est à la phase de l'enquête publique et c'est un projet d'ouverture d'une immense carrière de calcaire à 3-4 km de Bure. Et donc du coup, l'idée, ce serait de construire une énorme carrière qui puisse servir au chantier Cigéo. Et on se rend compte en regardant le dossier qu'il y a des intérêts pas très clairs concernant un maire d'une commune qui est agriculteur, qui possède des terres, mais qui est aussi à la Codécom sur le suivi de Cigéo. Enfin, on se rend compte qu'il y a peut-être conflit d'intérêts derrière tout ça. Donc il y a ça qui est en cours. Et concernant les prochaines étapes, on sait déjà que l'ANDRA va vouloir avancer sur les fouilles archéologiques autour du laboratoire et concernant les forages aussi. Donc on sait que, enfin, on fait face à un gros rouleau compresseur et c'est clairement lié à la relance du nucléaire qui est en cours, parce qu'en fait, pour la construction de nouveaux réacteurs, pour la relance du nucléaire, il y a besoin pour l'État de montrer qu'il y a une solution existante concernant les déchets nucléaires. Donc eux qui les enfouissent à 500 mètres sous terre, que les déchets soient pour la plupart radioactifs pendant des milliers d'années, ça pose pas de problème. Le fait que ce soit dans un territoire agricole où on est en train de faire face aux expropriations, ça pose pas de problème parce qu'il y a que 6 habitants au kilomètre carré. Le fait que ça amène énormément de transport de matières radioactives d'ici quelques années et que ça nucléarise un nouveau territoire, parce que la Meuse ne contient pas de nucléaire pour le moment, et à terme, Cigéo, c'est le plus gros projet industriel européen. Ce serait la troisième zone la plus nucléarisée du monde, après la Hague et le Bugey. Ça pose pas de problème pour les nucléocrates non plus. Donc nous, on continue de résister, on continue d'être sur place, on continue d'organiser des événements, on organise plusieurs chantiers dans nos différents lieux collectifs en octobre, en novembre, en décembre. Vous avez ces informations sur burburbur.info. Et on organise aussi un infotour contre Cigéo et contre la relance du nucléaire entre Reims, Charleville, Soissons, Laon, Amiens et Lille d'ici quelques semaines, donc en novembre-décembre. Et vous trouverez les informations aussi sur burburbur.info. Et si vous voulez encore plus d'informations, c'est aussi possible de me parler après. Et sinon, il y a un infokiosque anti-nucléaire et contre Cigéo sous le gros chapiteau.
Voilà, donc, merci l'intervention. Juste pour situer, il nous reste une petite vingtaine de minutes. Moi, j'ai juste un ou deux compléments très rapides par rapport à Bure et surtout l'importance de la lutte qui est menée et le mérite qu'ont les personnes. Je rappelle quand même qu'au début, quand il y a eu ce choix fait à Bure, il y a eu toute plus d'une dizaine, vingtaine d'années, ils ont cherché des lieux. Alors peut-être, on va dire, ils cherchent des lieux, parce que scientifiquement, c'est mieux d'adapter. Non, ils cherchent des lieux isolés, où il n'y a pas beaucoup de monde, où il y a des problèmes économiques, comme il y avait donc dans ceux-là. Donc ça, c'est pour ça qu'on leur a dit, d'ailleurs, hein, quand ils sont allés dans les ministères, c'est pour ça qu'on a choisi Bure. Après, plein de luttes qu'il y a eu un peu en France, dans divers lieux. Une dernière remarque, et puis on va voir s'il y a quelques questions dans la salle. Une dernière remarque, je rappelle quand même que dans le discours d'Atom for Peace, M. Eisenhower, il avait dit deux choses importantes, que l'énergie nucléaire serait quasi gratuite. Bon, ben, on peut regarder le prix aujourd'hui du kilowatt nucléaire par rapport au kilowatt d'un certain nombre d'énergies alternatives. Bon, je passe. Et deuxièmement, le problème des déchets sera rapidement résolu. Or, en fait, il n'y a rien de résolu. Il y a eu déjà un certain nombre de lieux, notamment aux États-Unis, en Allemagne, où ils ont mis des déchets nucléaires. Dans un des lieux aux États-Unis, ça a pris feu. Parce que c'est pas parce qu'on le met sous terre que ça continue pas là-dessous. Hein. D'ailleurs, à Bure, il faut faire des grandes cheminées énormes pour pouvoir évacuer que la chaleur, etc. Donc, il n'y a rien de résolu. C'est pas un cadeau qui est fait aux gens de Bure. C'est pas un cadeau qui est fait pour les générations futures. La solution des déchets nucléaires, ils ne la connaissent pas. Voilà. Alors, s'il y a des questions dans la salle sur Bure ou sur d'autres aspects du nucléaire, c'est peut-être le moment, parce que là, il est 4h28, enfin, je crois que ça avance un peu, me dit. Bon, enfin, on va dire une petite vingtaine de minutes.
Et s'il y a des questions, il faudrait prendre le micro, et je vais demander à Guy s'il veut bien le passer.
Et j'en profite pour rappeler que nous sommes sur en direct sur Radio Liberté à 89.4 et en direct, et aujourd'hui ce dimanche, Radio Liberté est en direct de Merlieu et du Salon du Livre Anarchiste.
Ouais. Questions à poser ?
Alors j'en profite pour parler un petit peu des coûts, parce que on a pas mal parlé de déficit et des choses comme ça, et c'est quand même des choses assez marquantes. Si on considère l'énergie, la finance utilisée et mobilisée par le nucléaire. On sait par exemple que l'EPR de Flamanville, c'est 20 milliards, hein, c'était le prix a été multiplié par 6. Il ne fonctionne toujours pas, il a l'air peut-être vaguement démarré, il s'arrête, on est content, la sécurité marche. Mais bon, voilà, pour l'instant ça marche pas, donc ça va continuer à coûter plus cher, et le prix du mégawattheure produit ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire que l'énergie produite par le nucléaire aujourd'hui est en passe d'être le double du prix de l'énergie produite par les renouvelables. C'est le cas à peu près partout en Europe, c'est quelque chose d'assez bien établi. Donc d'une certaine façon, on est obligé de se dire que le nucléaire, c'est pas l'avenir, parce que c'est cher, c'est trop cher, et ça nous coûte extrêmement cher. Le grand plan qui doit permettre, ce qu'on appelle le grand carénage, qui doit permettre de prolonger les centrales d'une vingtaine d'années et tout ça, est évalué à 100 milliards d'euros. 100 milliards. Hein. Le démantèlement, je crois qu'il doit aussi arriver un jour pour toutes ces centrales déjà très vieilles, je crois que c'est à nouveau 100 milliards. Et une certitude, c'est que nous paierons. Hein. C'est pas c'est personne d'autre. EDF a été renationalisé dernièrement. C'est simplement pour éviter que, suite à l'extrême endettement d'EDF, elle ne soit en faillite. Donc, de toute façon, nous paierons les dettes d'EDF.
Oui, sur l'aspect financier, parce que, bon, même... c'est quand même aussi important, même si pour moi, il y a vraiment des choses qu'on a évoquées et qui ont une grande importance pour l'humanité. Mais l'aspect financier pour l'État et aussi pour nos poches, le financement, actuellement, le financement des EPR n'est pas réalisé. Donc l'État, ce qu'il a essayé très récemment, c'est de proposer un certain nombre d'entreprises qui sont grandes consommatrices d'électricité, donc éventuellement d'électricité venant du nucléaire, de signer un contrat, alors je ne sais plus, sur une dizaine d'années, garantissant un prix du kilowattheure fixe. Mais en échange de ça, on leur a demandé évidemment de financer en gros l'EPR ou l'EPR2. Alors je crois qu'il y a 100 entreprises qui étaient classées. Et sur les 100, je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui ont accepté. Donc, attention à vos poches. L'EDF a déjà été... le trou que le nucléaire lui amène a été, je ne sais plus combien, quelques milliards. Là, il risque d'y en avoir de plus en plus, puisque les entreprises... parce que quand on a une entreprise, on garde son fric. Et en fait, le nucléaire, auprès contrairement à ce que peut-être l'État voudrait faire croire, même les entreprises se rendent compte que c'est une énergie qui est trop chère. Voilà. Donc, c'est un aspect, on n'en a pas parlé. Je ne dis pas qu'il est annexe. En tout cas, pour l'État, il est important. Et pour nos poches aussi. Voilà.
Et même si ce n'est peut-être pas le plus grave, mais cette dimension financière est importante, puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent qu'on dépense là, le bon sens paysan nous le rappelle, l'argent ne se dépense qu'une fois, ce qu'on dépense, les milliards qui sont placés là, ils ne sont pas utilisés ailleurs. Et de fait, à cause de l'obstination dans ce programme, on pourrait dire d'un autre âge, la France est en train de prendre un retard très très important dans la production, dans les choix qui sont faits pour la production d'énergie. Il y a d'autres pays, on en a parlé en Europe, qui vont petit à petit vers une énergie de plus en plus décarbonée d'une part et renouvelable. La France s'en éloigne énormément. Et donc c'est plutôt vers une impasse que nous allons de ce côté-là. Je vais...
Nicolas.
Oui.
Donc, je n'ai pas une question, en fait.
Oui. Parle dans le micro. Vers toi.
Vers toi. Oui. Ah, vous entendez mieux comme ça? Oui, ça y est, j'ai eu retour là, ici, que j'avais pas tout à l'heure. Oui. Bon, je m'éloigne de...
Question dans la salle qui se déplace.
Ah, bah voilà. Attention, s'il y en a un autre.
Si je me déplace, je vais vers l'autre. Ici, c'est le milieu, c'est au milieu des deux haut-parleurs.
C'est voilà. Parfait.
D'accord. Donc, tout à l'heure, vous avez mentionné justement au niveau des déchets nucléaires. Je pense que la plupart des personnes ne sont pas tellement au courant et disent oui, il y a des déchets nucléaires, ils vont être enterrés. Voilà. Mais vous avez parlé qu'il y a des effluents quand même qui continuent sans arrêt. Et je pense que les gens n'ont pas ça en tête que malgré que c'est enterré, ça va, il y a des cheminées, il y a des effluents qui vont continuer à être envoyés à l'extérieur, dans la nature. Et qu'est-ce que c'est comme effluent exactement? Il y a la chaleur, est-ce qu'il y a quelque chose, des produits nucléaires même, qui peuvent aussi être ressortir quoi, de...
Là, il faudra entrer dans le détail des divers déchets qui sont mis.
Qui sont mis déjà, oui. Oui, il faudrait connaître déjà ce qui va être.
C'est pas compliqué, mais c'est assez long à expliquer. Ouais. Je vais essayer d'être extrêmement bref. Ouais. Déjà, dans les déchets, qu'est-ce que c'est que les déchets? Du point de vue administratif, il y a dans les divers produits, parce qu'il y en a un paquet, hein, qui est dans le fonctionnement de réacteurs, je ne rentre pas dans tous les détails, dans tout ce qui est produit par une centrale nucléaire, administrativement, soi-disant scientifiquement, il y a un certain nombre qui ont été considérés comme réutilisables. OK ? Bon. Donc ceux-là, ils ont des contraintes moins graves. C'est pas ceux, pour l'instant, c'est pas ceux qui vont à la Hague puis dans les trous, là.
Oui.
Bon. Et après, il y a des degrés de dangerosité.
Ah, voilà.
En haute activité à vie longue, ça c'est les plus graves. Bon, en fonction de l'activité et de la durée de vie. Parce qu'il y a quand même des petits êtres qui sortent des centrales en question, qui peuvent durer des milliers et des milliers d'années. Hein. Donc, tout ça est assez compliqué. Bon. En plus, donc, ils mettent ça dans des espèces de... Enfin, c'est blindé, mais selon... il se passe des choses, il continue de se passer des choses à l'intérieur. C'est bien pour ça qu'aux États-Unis, ça a pris feu. Donc, en plus, dernière précision, alors j'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, il y en a peut-être un petit peu dans le livre, hein, de tous ces ce déchet. Et de toute façon, il est théoriquement prévu, j'ai bien théoriquement prévu, que le centre de Bure n'est pas fermé définitivement, parce que ça s'étale sur des dizaines d'années, et pendant des dizaines d'années, soi-disant, on va pouvoir récupérer et ressortir. Donc, ils avouent pratiquement qu'ils ne savent pas comment ça va se passer, puisque c'est sous cette condition-là, qui ne sera pas respectée d'ailleurs, qu'on pourrait ressortir les déchets si on voit que ça devient grave.
Voilà.
Voilà. Donc, j'insiste, il n'y a pas de solution actuellement garantissant la sécurité sur les déchets nucléaires. Si quelqu'un vous raconte ça à la télévision, il s'appelle Jean-Claude Vinci, enfin je l'appelle Vinci parce que Vinci finance ce monsieur, entre autres. Donc il n'y a pas de solution actuellement. Il n'y a pas de solution. La solution, c'est ce qui se passe à Bure. On vous envoie les flics et fermez vos gueules.
Oui, oui.
Voilà.
Et moi, je veux bien compléter qu'il y a une quinzaine d'années, à Bure, il y a des personnes de Lascaux, enfin du sud de la France, là où il y a la grotte de Lascaux, qui ont fait une marche jusque Bure, et qui ont embarqué avec eux plein de personnes, et c'était un moment médiatisé, etc. Et en fait, le message qui était derrière, c'est que à l'époque de Lascaux, on nous a laissé des super belles fresques, et encore, c'était pas il y a 100 000 ans. Et en fait, nous, ce qu'on va laisser aux générations futures, bah, en fait, c'est de la radiation, enfin, c'est des déchets radioactifs, quoi, qui vont être radioactifs pendant certains 100 000 ans.
Ce ne sera pas à être visité.
Bah, non, mais il y a de quoi de s'inquiéter, hein. Il n'y a pas que pour les gens de Bure, hein.
Tout à fait. Et il y a l'Andra qui se pose des questions sur comment, avec le passage des civilisations, le fait que peut-être d'ici quelques milliers d'années, on va changer de langage, on va changer de manière de communiquer, etc. Comment montrer que ce site est dangereux? Et ils se sont posé des questions, ils ont fait appel à des philosophes, à des artistes, à pas mal de personnes pour réfléchir à cette question. À un moment, ils ont posé la question du chat radioactif, du radio-chat. C'est-à-dire qu'un chat, enfin, l'idée ce serait de monter une civilisation qui aime le chat, qui adore le chat, pour que le chat continue d'exister dans les prochaines milliers d'années. Pour que les chats puissent aussi faire en sorte que les chats changent de couleur quand ils passent au-dessus de la radiation. Enfin, le chat soit radioactif et change de couleur pour montrer qu'il y a un problème et pour que les personnes comprennent qu'il ne faut pas creuser sous terre. On en est à ce niveau de réflexion
très compliqué.
Supra-civilisationnelle.
Il y a un autre aspect aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça, ils sont restés tranquilles pendant, je ne sais pas, 100 millions, je ne sais plus combien ils annoncent, de toute façon, ça ne fait foutre rien. Comment va évoluer le sol avec les infiltrations d'eau qui partout, quand le sol évolue. Hein. Alors effectivement, les Allemands avaient essayé de mettre dans des trucs où il y avait beaucoup de sel. Le sel étant censé, bon, bah, ça n'a pas marché non plus, ils ont été obligés d'arrêter. Donc, et sur des périodes extrêmement courtes. Et sur 100 000 ans, qu'est-ce qu'on va garantir?
Oui.
Bon, et comment les générations futures vont savoir que là, c'est vachement dangereux, qu'il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment? Donc, on a vraiment intérêt à soutenir ceux qui se bagarrent à Bure. Hein.
Au Canada, dans les années 70, ils enterraient déjà des déchets en dessous du lac Ontario.
C'est une bonne idée, sous un lac.
Voilà. Oui, je ne sais pas.
Il reste 5 minutes. Allez, alors, les paroles définitives.
Il y a un petit peu d'informations à faire justement sur, sur des mobilisations à venir, puisqu'il y a une coordination nationale qui s'est créée il y a un petit peu plus d'un an, avec l'objectif de réunir et un petit peu de fédérer les actions de toutes les organisations, associations antinucléaires réparties sur un peu tout le territoire français. Donc il y a toutes ces organisations conservent leur indépendance et peuvent éventuellement, si elles le souhaitent, avoir des actions chacune sur leur territoire. Et puis il y a un certain nombre d'actions où on essaye de réunir tout le monde pour être plus nombreux, avoir plus de force, plus de mobilisation. Et donc il y a une date nationale qui a été choisie et qui approche, c'est celle du 12 octobre.
Ah oui.
Le lieu, c'est à Rouen. Donc ça sera sur les quais de Rouen toute la journée du 12 octobre. Pourquoi Rouen? Parce que justement c'est en Seine-Maritime et c'est pas très loin de Penly, le premier site qui a été choisi pour l'implantation des futurs deux premiers EPR2, en attendant les suivants. Donc on voulait être à proximité de ce lieu-là pour informer. Il y aura beaucoup d'organisations qui seront présentes et qui tiendront des stands. On fera de l'information et puis il y aura une manifestation l'après-midi dans les rues de Rouen. Et le lendemain, le 13 octobre, il y a un rassemblement qui est prévu sur une plage à proximité de la centrale de Penly, justement pour manifester notre présence et dire que quoi qu'il arrive, on reviendra et on se manifestera. Un petit peu plus près de nous et pour les Parisiens, vendredi prochain, le 4 octobre, il y a une réunion d'information qui va se tenir sur ces mêmes thématiques. Donc le 4 octobre à la Bourse du Travail, boulevard du Temple, près de la place de la République, et c'est à 19h30, je ne dis pas de bêtises, et on parlera évidemment de nombre des thèmes qui ont été abordés ici et de la mobilisation nécessaire autour de tous ces sujets. Voilà, et donc si vous voulez
un petit brochure,
La pieuvre nucléaire, ouais. Publiée aux éditions du Monde Libertaire, ouais. Et c'est pas cher, c'est pas comme le nucléaire, c'est 5 euros.
Voilà, et puis soutenez ceux qui se bagarrent à Bure, ça me paraît très important, et merci, compris pour bloquer un peu toute la filière, parce que s'ils n'arrivent pas à foutre les déchets, bon, il va bien falloir qu'ils décident à faire quelque chose. Voilà, donc c'est terminé. Je remercie les deux intervenants. Donc j'annonce le débat suivant qui démarrera à 17h, quand les communistes flingués et les anarchistes, l'histoire de la Grange aux Belles par Sylvain Boulouk, qui est un historien et je pense est dans la campagne pas loin. Merci.
Si Géo dans sa robe de bure sonnera le glas jusqu'en 100 000, un cran d'arrêt sur le futur triste colosse aux pieds d'argile. Au Fukushima, mon amour, vivre d'atomes et d'eau pas fraîche, ça fait des vagues sur les beaux jours, des tsunamis dans les dépêches. La loi bataille avec les mots pour habiller les illusions. Derrière les mensonges, le labo se cache la mort au plus profond. Démocrature qui sort ses griffes, la chance à meute au petit matin. Qui sur les fronts alternatifs colle un pétard républicain. Atomiser tous les combats, terroriser l'opposition. Le pouvoir fait son cinéma, la vie des autres comme ambition. Barbouze dressée pour la peur et Robocop en hélico. En garde à vue, petite sœur, pour juste vouloir un monde plus beau. Au bois.
paysage blanc des centrales, le cri des grands oiseaux de nuit, cloués aux portes du capital, cœur en fusion d'aimer la vie. Si Géo, dans sa robe de bure, qu'en sera-t-il en l'an 100 000? Combien d'années pour ce futur pauvre colosse aux pieds d'argile? Nous irons au bois. Un, deux, trois, tu viens avec moi. Un, deux, trois, nous irons au bois. Quand on a pour venir, nous irons au bois. Quand on a pour venir, tu viens avec moi.
Alligator 427 aux ailes de cachemire safran, je grille ma dernière cigarette, je vous attends. Sur cette autoroute hystérique qui nous conduit chez les mutants, j'ai troqué mon cœur contre une trique, je vous attends. Je sais que vous avez la bonté destructive et le sourire vainqueur jusqu'au dernier soupir. Je sais que vos mâchoires distillent l'agonie. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427 à la queue de zinc et de sang, je me tape une petite reniflette, je vous attends. Dans cet étrange carnaval, on a vendu l'Homo sapiens pour acheter du Néandertal. Je vous attends. Et les manufactures ont beau se recycler, il n'y aura jamais assez de morphine pour tout le monde. Surtout qu'à ce qu'on dit, vous aimez faire durer. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427 au long regard phosphorescent, je mouche mon nez, remonte mes chaussettes, je vous attends. Et je bloque mes lendemains, je sais que les mouches s'apprêtent autour des tables du festin, je vous attends. Et j'attends qu'il se dresse au prochain charnier, j'ai raté l'autre guerre pour la photographie. J'espère que vos macabres seront bien faisandés. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427 aux crocs venimeux et gluants, je donne un coup de brosse à mon squelette, je vous attends. L'idiot du village fait la queue et tend sa carte d'adhérent pour prendre place dans le grand feu. Je vous attends. J'entends siffler. souffler le vent au-dessus des calvaires. Et je vois les vampires sortir de leur cercueil pour venir saluer les anges nucléaires. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427 aux griffes d'or et de diamants. Je sais que la ciguë est prête. Je vous attends. Je sais que dans votre alchimie, l'atome, ça vaut des travelers chèques et ça suffit comme alibi. Je vous attends. À l'ombre de vos centrales, je crache mon cancer. Je cherche un nouveau nom pour ma métamorphose. Je sais que mes enfants s'appelleront Vers de terre. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427 au cerveau de jaspe et d'argent. Il est temps de sonner la fête. Je vous attends. Vous avez le goût du grand art. Et sur mon compteur électrique, j'ai le portrait du prince ringard. Je vous attends. Je sais que désormais vivre est un calembour. La mort est devenue un état permanent. Le monde est aux fantômes, aux hyènes et aux vautours. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Vive la mort. Vive la mort. Vive la mort.
Les hommes nous ont condamnés. t'aimes jouer avec le feu, pourvu que le feu soit avant. À l'abri du terrain de jeu, tellement loin des flammes et des cendres. Je marche sur des braises radioactives, je le sais bien. Je vois du haut de ma falaise l'océan qui me tend la main.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et bien après ce débat sur le nucléaire, nous avons écouté trois chansons. Nous avons écouté Eric Frasiak, Bure sur Atome. Nous avons écouté Hubert Félix Thiéphen, Alligator 427. Et là, à l'instant, c'était HK et les Saltimbanques. Fukushima, mon amour. Le débat suivant est en train de se préparer. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Eh bien, je vous donne les micros tout de suite. C'est parti.
Voilà. Bon, eh bien, nous allons entamer le débat suivant qui est intitulé d'une manière un peu provocatrice, mais vous verrez que ce n'est pas tant que ça. Quand les communistes flinguaient les anarchistes, l'histoire de la Grange aux Belles par Sylvain Boudouk. Alors Sylvain Boudouk, on te remercie d'être là. Et bon, tu es plutôt connu comme historien maintenant, et on t'entend souvent à la radio, n'est-ce pas? Tu accompagnes le mouvement libertaire, notamment la Fédération anarchiste, depuis de nombreuses années. Et voilà, donc tu t'es complètement... on est content que tu sois là, en gros. Et puis, je vais te demander de présenter un peu ce livre qui s'intitule « Le meurtre à la Grange aux Belles, quand les communistes flinguaient les anarchistes », paru aux éditions du CERF. Il n'y a pas très longtemps. Voilà.
Alors, c'est un ouvrage qui a accompagné une recherche au long cours sur cet événement qui était connu dans les milieux libertaires depuis un certain nombre de décennies, puisque par exemple, Mépicret, dans ses mémoires, évoque l'événement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance d'avoir accès aux archives de police sur l'enquête. Et donc, au-delà des soupçons qui pesaient très lourdement sur un certain nombre de personnes, l'enquête de police permettait d'affiner un certain nombre de points et donc d'en faire finalement un livre. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça a été de construire ce livre, justement, non pas en faisant juste un livre d'histoire qui aurait été finalement relativement bref, mais comme il y avait une enquête policière, essayer de lui donner un tour, je dirais pas de roman policier, mais essayer de lui donner un tour un peu avec un fil narratif qui reprendrait les principaux éléments d'une enquête de police et d'essayer de restituer aussi ce qui se passait faisait jour après jour dans les temps qui ont suivi ce drame entre guillemets de la Grand Jouvelle.
Ouais. Est-ce qu'on pourrait commencer très très connu dans le mouvement libertaire, mais
alors qu'est-ce qui s'est passé?
Libertaire n'a pas que des anarchistes comme auditeurs.
Alors j'allais venir à qu'est-ce qui s'est passé. En fait, le 11 janvier 1924, on a deux il y a un meeting du Parti communiste et les syndicalistes du bâtiment principalement décident d'aller porter la contradiction au meeting du Parti communiste au motif que ce qui se passe à la Grange Aubel, enfin au motif que la réunion publique qui s'organise, qui est organisée à la Grange Aubel est une réunion électorale et la rue de la Grange Aubel à ce moment-là est un local syndical. Donc c'est une atteinte pour ces syndicalistes et pour un certain nombre de ces libertaires au principe d'autonomie du syndical par rapport au politique. Et donc, qui décide d'aller faire la bronca. Bronca sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure. Toujours est-il que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, dans la salle, il y a des coups de feu qui sont tirés. Et on relève du côté, dans les rangs libertaires, on relève deux libertaires qui sont morts sur le coup. Donc tout l'objet du livre a été d'essayer de voir comment on en était arrivé là et quelle a été ensuite l'enquête qui a permis qui permet d'arriver à un certain nombre de conclusions sur la volonté du service d'ordre du Parti communiste de faire feu. Alors après reste un débat, est-ce que c'est intentionnel? Dans ce cas-là j'aurais appelé ça assassinat à la Grange Aubel ou est-ce que c'est volontaire, mais la volonté de te tuer n'était pas présente, et ça devient un meurtre en termes de qualification juridique. Voilà. Donc ça, c'est l'objet du livre. Après, je remonte bien avant pour essayer de replacer tous ces éléments dans le cadre des débats autour de la violence révolutionnaire, de l'affrontement entre syndicalistes libertaires, syndicalistes communistes, syndicalistes révolutionnaires et syndicalistes tout court. D'abord dans la CGT, puis dans un deuxième temps, il y a une scission syndicale qui va donner naissance à la CGTU. CGTU où justement on retrouvera cet affrontement entre deux visions du syndicalisme, une plus ancienne marquée par la charte d'Amiens et une seconde marquée par une nouvelle vision du syndicalisme, qui est le syndicalisme communiste, dans lequel le parti impose son primat, enfin l'Union soviétique puis le Parti communiste français impose ou en prima sur un certain nombre de décisions. Et donc tout l'objet était à la fois de recontextualiser par rapport à la violence révolutionnaire, de montrer le climat de tension dans lequel les événements se déroulaient, et dans un dernier moment de retracer cette enquête et de montrer comment les forces de l'ordre, d'une part, vont commencer à voir qu'il y a un problème, enfin, constater qu'il y a eu deux morts, et donc comment la police va mener une enquête à laquelle elle n'aboutira pas complètement, et comment, de part et d'autre, syndicalistes anarchistes d'un côté et communistes de l'autre se renvoient la...
Non pas la balle,
mais se renvoie la responsabilité de ce qui se passe, avec une réalité qui est que, sans dévoiler un certain nombre de choses, on sait que c'est pas les anarchistes qui ont tiré sur les communistes, puisque, comme le syndic le souligne le sous-titre.
Ouais. C'est un sous-titre.
C'est un sous-titre, mais bon. Donc, alors, on peut peut-être, dans ce cas-là, revenir sur les premiers temps de cette histoire. Donc, il faut remonter. Alors, on pourrait déjà remonter déjà à la question de la violence révolutionnaire, qui n'est pas la même en fonction des orientations politiques. C'est-à-dire qu'on a, d'un côté, des militants qui tous ces militants sont partisans de la violence. Après, reste à savoir comment ils entendent la notion de violence et deuxième chose de la conquête du pouvoir, voire même de la conquête ou de la non-conquête pour un certain nombre d'entre eux du pouvoir et juste du basculement vers une révolution. Donc c'est... Il y a cet aspect, ce premier aspect-là, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend les milieux libertaires, il y a un certain nombre de libertaires qui ne sont pas du tout hostiles à l'utilisation de la violence pour mettre à bas, ce qui, entre guillemets, ce qu'ils appelaient le capital ou l'ancien régime. Mais cette violence ne doit pas s'exercer dans le principe, enfin, avec le principe du conquête, d'une conquête de la, du pouvoir d'État et de la conquête de l'appareil répressif. D'appareil répressif, puisque l'objectif est de détruire immédiatement les systèmes répressifs. Et de l'autre côté, on a avec alors, plusieurs événements, mais notamment avec la prise du pouvoir par les bolcheviks et les débuts de la... à la fois de la révolution russe et donc de cette conquête du pouvoir, un nouveau groupe qui apparaît, qui génère dans un certain nombre de milieux une nouvelle forme d'utopie révolutionnaire, où là il ne s'agit plus de renverser le régime, mais de prendre le contrôle de l'appareil étatique pour instaurer ce qui s'est appelé pendant très longtemps la dictature du prolétariat, prolétariat incarné par un parti qui était le parti communiste, alors le parti en URSS, le parti communiste d'Union soviétique, les autres partis communistes dans le monde qui espéraient à un moment ou à un autre pouvoir avoir la même démarche. Donc on est dans cette confrontation-là, confrontation qui est rendue encore un peu plus compliquée parce que au sortir de la Première Guerre mondiale, il y a une grève générale d'importance qu'on appelle la grève des cheminots de 1920. Grève des cheminots qui met en quelque sorte un terme à un vieux mythe qui existait dans les mouvements syndicaux de tentative de renverser le pouvoir, enfin de détruire le pouvoir par cette grève, ce qu'on a appelé longtemps le mythe de la grève générale, alors peut-être parfois insurrectionnelle et expropriatrice, en tous les cas, grève qui aurait paralysé complètement le système économique et social dans les sociétés capitalistes. Et cette grève des cheminots, pour de multiples raisons qui je ne vais pas exposer ici, est un échec. Et du coup, toute une partie des syndicalistes commence à se dire il faut se tourner vers la nouvelle forme de prise de pouvoir qui est incarnée par les bolcheviks. Dans le mouvement syndical, il y a deux options qui se présentent. Une première option qui est de dire l'issue que proposent les bolcheviks, on est en 1921, on est déjà au moment de Kronstadt et on a déjà Kronstadt étant une révolte populaire massacrée par le parti État communiste en Russie. Donc on est après la révolte de Kronstadt et une grande partie des syndicalistes disent non, ce n'est pas la solution. Les minoritaires qui sont qui se sont rassemblés dans ce qu'on appelle les comités syndicalistes révolutionnaires, ces minoritaires qui mêlent pro-bolchéviques, libertaires, syndicalistes de diverses obédiences, forment un courant dans la CGT et tentent de prendre le contrôle de la CGT, ce qui n'aboutit pas. Ils sont entre guillemets exclus ou démissionnaires puisqu'ils ont formé ce qui était interdit normalement par les statuts de la CGTU, c'est-à-dire pas des fractions réellement, mais ce qui s'est appelé des groupes syndicalistes révolutionnaires, des comités syndicalistes révolutionnaires pour être précis sur l'expression, et ces comités syndicalistes révolutionnaires, selon leur terminologie, cherchaient à noyauter la CGT. Arrive un congrès qui se passe relativement mal en 1921, dans lequel on a des affrontements entre syndicalistes réformistes ou syndicalistes majoritaires dans la CGT et minoritaires, au point qu'un libertaire bien connu pour son pacifisme sort son pistolet et tire des coups de feu en l'air. Ce libertaire s'appelle Louis Lecoing.
très connu pour son pacifisme.
Très connu pour son pacifisme à partir d'une certaine date. Avant, il était nettement moins. Et donc, le coin tire des coups de feu en l'air, ce qui a eu le temps... Alors, en l'air et à blanc, ce qui quand même change la nature du... Même s'il était quand même armé, mais ça change la nature du, de ce qui peut se faire. Enfin, ça peut expliquer un certain nombre de choses pour la suite. Donc on a ce premier événement et suivi d'un deuxième... suite à ce congrès, de la mise à l'écart de la minorité syndicaliste révolutionnaire qui comporte de multiples tendances, minorité syndicaliste révolutionnaire qui fonde la Confédération Générale du Travail. Comme il y a une scission, il faut se qualifier, et donc ils sont unitaires. Donc ils sont pour le rassemblement, même si c'est une scission. Donc là, on est en fin 1921, début 1922, c'est donc la naissance de la CGTU. CGTU dans lequel on va retrouver un affrontement de nature un peu différente pour, alors, soit le développement d'un syndicalisme de type charte d'Amiens, esprit d'Amiens, dans lequel les partis politiques n'auraient pas voix au chapitre dans les prises de décision, et une deuxième vision qui est majoritaire, qui devient très rapidement majoritaire dans la CGTU, donc qui représente un alliage entre des syndicalistes révolutionnaires mais pro-bolcheviques, donc qui s'expriment dans le groupe de la vie ouvrière, et puis un certain nombre de militants du Parti communiste. Donc là, on est entre le mois de janvier 1922 et le mois de juillet 1922. La majorité au congrès fondateur de la CGTU de 1922 à Saint-Étienne, faite de cet alliage donc, que je viens d'évoquer entre syndicalistes communistes et syndicalistes révolutionnaires pro-bolcheviques, est très majoritaire au congrès, alors, suite à une entente, mais dans les faits, quand on fait une comptabilité, il n'y a pas de... Il n'y a pas de photo, en fait. Il y a une très large majorité pour ces militants. Alors, même si à quelques endroits, ils ont pu effectivement prendre le contrôle de certains syndicats par des moyens, on va dire, extra-syndicaux, la statistique globale, ce qu'on prend l'ensemble des réunions, montre qu'ils étaient... ils étaient très largement majoritaires. Donc ça, c'est le premier temps. On est après le congrès de Saint-Étienne. La cohabitation entre les deux courants continue tant bien que mal. Les majoritaires ratifient l'adhésion à une internationale qui s'appelle l'Internationale syndicale rouge, qui vient d'être créée à Moscou l'année précédente, mais à laquelle la CGTU n'avaient pas encore adhéré. Ils adhèrent à l'automne 1922 et ça continue d'envenimer les relations entre les différents groupes syndicalistes. Ces conflits de tendance se poursuivent tout au long de l'année 1923 avec un climat de tension qui va crescendo, à savoir que de plus en plus dans les réunions, les militants ont tendance à s'invectiver, à se donner quelques noms d'oiseaux divers et variés, à même se menacer, par exemple on peut le dire dans un des congrès, donc le congrès suivant, qui est le congrès de Bourges à la fin de l'année 1923, qu'un militant a été menacé par un militant communiste en lui disant « des gens comme toi, ça se descend à coups de Browning ». Il y avait donc une ambiance tendue. Il faut quand même rappeler que de l'autre côté, c'était pas non plus des enfants de cœur et que un certain nombre d'entre eux étaient prêts à dire que s'il fallait, ils utiliseraient la dictature de la trique, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à utiliser des coups de bâton pour imposer leur point de vue aussi. Il faut relativiser. On est quand même dans une atmosphère très tendue, dans une atmosphère assez survoltée par moments. ans. Et donc, le deuxième congrès de la CGTU qui se tient en 1923 vient traduire cette atmosphère assez survoltée d'affrontement entre deux tendances, pour schématiser. Arrive le début 1924, et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, le Parti communiste veut tenir une réunion publique dans les locaux de la rue de la Grange-Aubel. Alors, pourquoi est-ce un problème ? A priori, normalement, ça ne devrait même pas être un problème, puisque les locaux de la rue de la Grange-Aubel sont les locaux de la CGTU, les locaux nationaux de la CGTU à ce moment-là, après avoir été les locaux de l'Union des syndicats de la Seine jusqu'en 1921. Les locaux syndicaux peuvent être loués, y compris à des partis politiques. Le problème, c'est que là, c'est plus réunion d'un parti politique, ça devient un meeting électoral. Et c'est considéré comme par la minorité de la CGTU comme une atteinte aux principes syndicaux, et notamment au principe de l'indépendance du syndicalisme, qui est que, selon les termes de la Charte d'Amiens, le mouvement syndical ne doit pas se faire dicter son attitude par les partis politiques ou les sectes philosophiques. Donc on se retrouve dans cette situation extrêmement tendue. Je sais par ailleurs qu'à ce moment-là, le Parti communiste a commencé... par deux facteurs, a commencé notamment dans le monde des cheminots à organiser un propre service d'ordre plus qu'un service d'ordre, avec des militants qui sont armés pour tenter de d'épauler un mouvement qui est en train de se dérouler en Allemagne, qu'on appelle la Révolution allemande. Alors, ce sera un échec en Allemagne, mais toujours est-il que l'Internationale communiste et l'Internationale syndicale rouge avaient demandé aux militants de passer à une autre dimension de l'engagement. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, on voit également que ce même phénomène se produit chez les militants issus des jeunesses communistes. Et arrive donc le 11 janvier 1924, où, après avoir été annulée une première fois, la réunion a finalement lieu. Le matin même, la minorité syndicale appelle ses militants à faire, entre guillemets, la bronca, en tous les cas, à perturber le meeting du Parti communiste. Et le Parti communiste, qui est dirigé à ce moment-là par Albert Train. Alors, je vais expliquer qui est Albert Train en deux petits mots. Albert Train, c'est un ancien instituteur devenu lieutenant dans l'armée, enfin capitaine dans l'armée, et qui a une réputation d'être extrêmement autoritaire, extrêmement cassant, et qui est partisan de l'application d'une discipline de fer. Et Albert Train a donné comme consigne aux militants de ne pas se laisser faire, et est entouré d'un certain nombre de personnes qui sont là pour faire le service d'ordre. Service d'ordre qui n'est pas dans la simple protection de la tribune, mais qui a pour objectif de repousser les agitateurs potentiels. Donc le meeting commence. Alors, dans le livre, je donne plusieurs sources qui donnent des interprétations du meeting un peu différentes. Même si, en lisant puisqu'un commissaire spécial était, donc un policier des renseignements généraux était là, était présent, comme c'était le cas dans chaque réunion publique, l'Humanité fait un compte-rendu et le Libertaire fait aussi un compte-rendu. Donc on a trois points de vue qui sont légèrement différents, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'on voit très bien que il y a, au début de la réunion, une volonté, d'imposer le point de vue du parti et de la part d'une cinquantaine de militants, alors d'une centaine de militants sur une salle de 1000 à 1500 personnes, de l'autre côté, d'une volonté de faire une bronca pour rendre la tenue de ce meeting, si ce n'est difficile, si ce n'est impossible, en tous les cas, difficile. Donc il y a plusieurs échauffourées qui se produisent, il y a au total trois bagarres jusqu'au moment où se produit la bagarre fatale. Bagarre fatale dans laquelle un certain nombre de coups de feu partent de la tribune, donc des gens qui étaient censés protéger la tribune, donc Train et quelques autres orateurs communistes, en direction de ceux qui font la bronca. Comme il y a déjà plusieurs bagarres, il se trouve que ce qui va permettre au Parti communiste et à la majorité de la CGTU de dire « bah non, vous voyez que c'est pas nous parce qu'on a des blessés dans nos rangs », comme il y a eu plusieurs affrontements, on constate que plusieurs militants du PC ont été également blessés. Mais l'intérêt, c'est comme on a accès aux archives de police, on se rend compte que les militants blessés étaient en fait en train... Les militants du PC qui étaient blessés étaient en fait, ont été blessés pour un, par exemple, dans le dos. Donc ça donne un certain nombre d'indications sur le départ des coups de feu et l'arrivée des coups de feu. Et puis, sans rentrer dans tous les détails, la police fait ce qu'on appelle un relevé balistique et les balles sont retrouvées dans le mur où se trouvait la minorité syndicale. Donc dès le 12 au matin, il y a un certain nombre de réactions dans la presse. Comme on peut l'imaginer, les minoritaires disent « nous, on a certes porté la contradiction, mais en face, ils étaient armés et ils nous ont tiré dessus sans autre forme de procès. Donc ça, c'est la première chose, et puis la polémique va enfler au fur et à mesure pendant plusieurs jours. Et en même temps que cette polémique, donc les commissaires de police chargés de l'enquête, mandatés par un juge d'instruction, vont eux aussi conduire leur enquête. Alors, il y a un certain nombre de PV d'enquête qui sont, enfin de PV d'auditions qui sont reproduites, et il y a une caractéristique assez amusante qui serait totalement impossible aujourd'hui, c'est de voir que aucun des militants, quelle que soit sa tendance, ne refuse de dire exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que il s'agit pas, c'est une affaire interne au mouvement ouvrier, il ne s'agit pas d'aller dire qui a tiré ou qui est susceptible d'avoir tiré. Et donc, on a en même temps, dans le bouquin, j'essaie de montrer qu'en même temps qu'il y a les PV de police, il y a une polémique qui s'ensuit sur les responsabilités. Une polémique qui s'ensuit dans les responsabilités dans la presse de qui a tiré et qui a pas tiré, sans jamais d'indication de la personne des noms des personnes qui ont pu tirer. Il y a une première ambiguïté qui apparaît dès le surlendemain de la découverte des meurtres, de la mort de ces deux personnes, c'est que un des deux est clairement identifié comme un militant libertaire de vieille date, ayant déserté pendant la Première Guerre mondiale, vivant sous une fausse identité, étant un militant syndicaliste du bâtiment depuis de nombreuses années. Donc on a cette première personne qui est identifiée, qui s'appelle Poncet, mais j'ai oublié son prénom là sur le moment. Et un deuxième militant qui était sympathisant libertaire, mais qui n'est pas militant en tant que tel. Et donc tout s'ensuit toute une polémique parce que en même temps, tout en étant sympathisant libertaire, le PC est allé voir sa compagne et elle lui aura dit qu'il était abonné à l'Humanité. Donc le Parti communiste cherche comme argument, enfin cherche à dire, mais vous voyez, s'il était abonné à l'Humanité, c'est qu'il était proche de nous. Or, plusieurs autres témoignages qui viendront par la suite indiquent pas l'exact contraire, mais en tous les cas, n'indiquent pas d'appartenance partisane de Nicolas Clot, d'inscription de Nicolas Clot au PC. Et donc, on arrive à un premier élément qui montre que le climat de tension demeure extrêmement fort, c'est que le 16 janvier, donc il y a obsèques des deux personnes, et d'un côté de Poncet et de l'autre côté de Clot, et on a deux cortèges séparés qui vont enterrer entre guillemets leurs victimes. Le cortège des syndicalistes étant nettement plus fourni, étant accompagné de différents dirigeants syndicaux de toute obédience, alors que le cortège communiste semble nettement moins fourni, même d'après les échos de presse qu'on peut avoir. La polémique continue amplement pendant toute l'année 24. Surtout et principalement par voie de presse interposée. Donc c'est grosso modo à ce moment-là un affrontement entre le Libertaire quotidien. Il faut que je rappelle que le Libertaire était quotidien, alors avec un tirage relativement faible, hein, puisque c'était quelques milliers d'exemplaires, et une Humanité aussi quotidienne, mais elle a plus de 200 000 exemplaires, donc avec un léger déséquilibre dans le nombre de lecteurs. Donc cette polémique continue, d'une part, par voie de presse interposée et dans la CGTU d'autre part. Dans la CGTU, ça devient important parce que pour un certain nombre de militants syndicalistes, il n'est pas question de continuer à militer avec des gens qui ont tiré sur d'autres militants ouvriers. Donc se pose dans la CGTU dès ce moment-là la question du départ d'un certain nombre de militants. Alors, je donne pas tous les résultats de l'enquête, parce que sinon vous n'allez pas lire le livre. Mais il se passe la chose suivante, c'est que une instance régulative en fait dans la CGTU qui s'appelle le CCN. Alors, CCN, c'est en fait une réunion des principaux responsables à la fois locaux et fédéraux, donc de chaque corps de métier de la CGTU. Enfin, de chaque fédération professionnelle de la CGTU, décide qu'il va y avoir une commission d'enquête. Au moment où un certain nombre de personnes commencent à dire non, mais on ne va pas rester avec. L'expression utilisée par le libertaire, c'est par exemple rompons avec les assassins. Il y a néanmoins une commission d'enquête qui est diligentée, une commission d'enquête qui aboutit à une conclusion, enfin deux conclusions en fait. Commission d'enquête où il y a quatre membres de la majorité et deux membres de la minorité qui auditionnent un certain nombre de... Alors malheureusement, ça, j'ai jamais pu accéder, je ne sais même pas si elles existent, j'ai jamais pu accéder au PV de cette commission d'enquête. Néanmoins, on a les conclusions. Et on a deux conclusions oui, radicalement opposées. Peut-être pas tant que ça, en fait. Une première conclusion de la part de... Une première conclusion de la part de la majorité confédérale qui est de dire ce sont des provocateurs qui ont perturbé le meeting et ces provocateurs sont peut-être liés à la police. Il s'arrête là, c'est donc provocation policière, l'élément classique en fait dans un certain nombre de rhétoriques militantes. Puis la deuxième commission, la deuxième conclusion qui est celle de la minorité confédérale, qui est de dire ben non, on a examiné, on a entendu les mêmes personnes, il se trouve que il n'y a pas une seule fois. Et là on arrive à une conclusion commune entre sans qu'il y ait de rapprochement, mais une conclusion commune que fait l'enquête de police et que fait la minorité, qui est de dire ben, un certain nombre de responsables, un certain nombre de militants ont tiré délibérément et intentionnellement sur la minorité, après que le secrétaire général du parti, donc, qui était Albert Rhin, ait donné l'ordre de tirer pour faire taire les impétrants, et donc pour mettre un terme à cette perturbation du meeting. Et à partir de ce moment-là, on peut arriver à une dernière conclusion sur le qui a tiré. Je ne rentrerai pas dans le détail. Par contre, ce qui pose un certain nombre de problèmes, c'est que ce n'est pas seulement des simples militants. On peut en avoir quelques profils, mais c'est aussi des responsables fédéraux qui ont participé au meurtre. Et normalement, la minorité attendait comme signe que une de ces personnes soit démise de ses fonctions. Mmh. Tel n'a pas été le cas, puisque il se trouve que j'ai retrouvé dans d'autres archives à Moscou des lettres de la CGTU demandant si on pouvait l'accueillir quelques mois en URSS parce qu'il était... ils n'expliquent pas pourquoi, mais ils disent que ça aurait été très très bien. Alors, il se trouve qu'au même moment, parce qu'on est en début 1924, au même moment à Paris, il y a un certain nombre de responsables de l'Internationale syndicale rouge qui sont présents et qui, alors, qui n'étaient pas à ma connaissance sur les lieux du meeting, mais qui savent parfaitement qui a fait quoi. Le militant en question ne fera jamais de séjour d'études en URSS, malgré le fait que, visiblement, le libertaire avait eu vent de cette histoire, avait proposé qu'il l'embauche dans la police politique soviétique, donc qui était la Tchéka. Donc on a cet ensemble d'événements que j'essaye de restituer à travers une enquête de police. Qui est à la fois une enquête de police, une mise en rapport des différents journaux qui peuvent exister, et en essayant de tirer vers l'enquête policière, avec un dernier élément qui me semble assez important, qui est la mémoire qui a pu être portée de ces événements, puisque j'évoquais au début de mon propos les Mepikrai qui avaient été témoins de ces de cette scène. Et effectivement, alors on a ce que je laissais entendre au début, c'est enfin pendant l'exposé, c'est à savoir que un certain nombre de militants communistes vont dire c'est pas nous, c'est certainement une provocation policière de nouveau. Et les membres de la minorité, donc que ce soit Mepikrai dans ses mémoires ou un autre militant anarchiste sur lequel j'ai... Enfin, non, un autre militant syndicaliste qui n'était pas anarchiste, mais qui était... qui a longtemps collaboré aux libertaires, qui s'appelait Julien Le Pen, qui disent bah non, on sait exactement qui c'est et on sait qui a tiré, et la majorité confédérale n'a jamais voulu reconnaître quoi que ce soit. Et donc, on est confronté à deux types de deux mémoires qui sont complètement différentes, qui en fait évoquent deux conceptions du politique et du syndical qui sont elles-mêmes complètement différentes. La conception qu'on pourrait appeler syndicaliste traditionnelle et une nouvelle vision du politique qui s'incarne dans la majorité confédérale de la CGTU et puis dans la politique du parti communiste sur le plan long terme, donc avec est-ce que la violence révolutionnaire peut, enfin contre qui la violence révolutionnaire peut être tournée, et quel est l'objectif de cette violence révolutionnaire En l'occurrence, après la Grange aux Belles, il n'y aura plus réellement, à quelques exceptions près, mais vraiment très très rares, il n'y aura plus jamais de perturbation massive des meetings du Parti communiste par les libertaires ou par des syndicalistes. Voilà pour les principaux éléments de ce que c'est que meurtre à la Grange aux Belles.
Donc, pas d'identification certaine, donc pas de condamnation.
Alors, dernière, oui, effectivement, dans l'enquête de police, il y a un certain nombre de trous. C'est-à-dire que les policiers, les deux policiers qui sont chargés de l'enquête et le juge d'instruction se doutent de l'identité d'un des tireurs. Enfin, au moins deux des tireurs, sauf qu'on est dans une enquête de police. Donc, pour une enquête de police, il ne faut pas seulement qu'il y ait des soupçons, il faut qu'il y ait des preuves matérielles. Or, il n'y a aucune preuve matérielle de quoi que ce soit. Une des personnes est même dans le déni en disant « Bah non, moi, j'y suis pour rien, je n'ai pas tiré, c'est pas moi. » Comme c'est une bagarre générale, personne ne peut prouver quoi que ce soit. Et à partir de ce moment-là, on est dans... des supputations, mais on n'est pas dans une preuve tangible en termes juridiques. Donc, ce qui se passe, c'est que l'enquête finit par faire plouf, et le juge d'instruction est obligé de conclure un non-lieu, puisqu'on n'a pas les éléments. Alors, là, l'autre aspect, c'est qu'on n'a pas toutes les notifications non plus. On a l'enquête de police, on a j'ai retrouvé quelques lettres du juge, mais il n'y a plus de, malheureusement, peut-être qu'un jour on le retrouvera, mais il n'y a plus malheureusement le dossier d'instruction qui semble, comme ça aboutit à un non-lieu, qui semble avoir été détruit il y a un certain nombre d'années. Voilà. Donc, dernière chose pour ce qui est de la mémoire du mouvement libertaire, ça fait partie des, entre guillemets, alors peut-être pas des... Si, ça a été entre guillemets, un choc traumatique assez fort, puisque, bon, j'évoquais Mépicret qui en parle quand elle publie ses mémoires en 1979. Donc Julien Le Pen, pendant toute l'entre-deux-guerres, y revient régulièrement. Un certain nombre d'autres militants l'évoquent. Et puis, à partir des années 80, c'est souvent la reprise en fait des mémoires de Mépicret, mais on a un certain nombre de... C'est une BD de Jean-Louis Fontvanne, par exemple, qui l'évoque dans ses mémoires. On a dans une autre bande dessinée sur Benoît, consacrée à Benoît Brochu, la même chose, c'est que l'événement est évoqué. Dans un autre petit ouvrage qui s'appelait « Trajectoire du fascisme rouge », l'événement est également évoqué. Donc il y a si on pouvait faire un parallèle, c'est un peu un... l'expression est un peu grossière parce que ça n'a pas la même ampleur, mais c'est un peu un Kronstadt à la française, c'est-à-dire que un certain nombre de militants savent que ils n'auront pas affaire à des enfants de cœur en face d'eux, et que c'est le Parti communiste, à partir de cette date-là, est prêt à n'importe quelle exaction contre les militants. Et c'est ce qu'on retrouvera. Donc, ces violences et ces interdictions de parole et ces actes, c'est ce qu'on retrouve, en fait, ce qui fait un des fils conducteurs des rapports, non pas de... Enfin, des rapports d'animosité profonde et de divergence plus que profonde entre communistes et anarchistes depuis... Alors, ça avait commencé avant avec ce qui se passait en URSS, mais ça vient de confirmer en France, et c'est ce qu'on retrouvera dans les journées de mai à Barcelone en 1937, ou dans un certain nombre, après, une échelle plus réduite, mais de conflits qui peuvent exister, soit dans le mouvement syndical, soit dans des associations. Voilà pour l'essentiel.
Pour l'essentiel.
Des questions ?
Eh bien. Mais alors, est-ce qu'il y a eu d'autres historiens qui se sont penchés et qui ont fait des écrits sur...
Pour les historiens, il y a des fois où l'événement est évoqué, mais personne n'avait réellement pris l'enquête. Alors, il y a un historien qui avait vu le dossier, mais qui en fait tout à fait autre chose sur la violence en politique. Mais c'est beaucoup plus sur l'utilisation des armes. C'est pas du tout sur cet affrontement en tant que tel. Les autres historiens, la plupart du temps, alors qui étaient plutôt de tendance communiste, ont gentiment mis sous le boisseau en disant « Bon, il se peut que ce soit le Parti communiste, mais on n'est pas bien sûr. » Il y en a même qui réaccréditaient la thèse de la provocation policière. Donc il n'y a pas d'éléments concrets, matériels... s'il y a des éléments concrets matériels, mais il n'y a pas d'historien qui ait travaillé entièrement ce dossier. Bon, alors après, moi, c'est mes objections à moi qui faisaient que je rêvais un jour de pouvoir faire quelque chose dessus. Tant qu'on n'avait pas d'archives réellement, on ne pouvait pas en faire quelque chose. Ouais. Et le fait d'avoir ce dossier me permettait quand même de confirmer un certain nombre d'hypothèses qui avaient pu être émises et puis d'en faire, enfin pas un livre, c'est pas un livre amusant du tout, mais de mettre en perspective et d'essayer de trouver une trame narrative qui puisse intéresser le plus grand nombre.
Il y avait une question là-bas. Il y avait une question dans le public.
Je connais un petit peu cette période-là, du côté des espérantistes, ceux qui étaient frondus pour l'espéranto à cette époque-là. Et comme dans toute la société mondiale, les espérantistes se sont retrouvés un petit peu partout. Et ça, c'est une époque, c'est une période juste après quand même, on peut dire après quand même, la révolution russe, donc de 17, qu'on a appelé la révolution russe. On parle de 1924, c'est ça, dans ces eaux-là aussi. Pour moi, c'est tout de suite après, quoi, la révolution russe. C'est même pas encore bien figé. Alors, entre les gens qui se disent nous, on est pour l'application, justement, de la révolution russe, ce qu'on a appelé les communistes, quoi, il y a ceux-là. Donc, en France, la CGT, CGTU, hein, puisqu'on a parlé de tout ça, là, en fait. Toi, Sylvain, tu as parlé de tout ça. Pour moi, c'est pas si démarqué que ça entre ceux qui sont tendance libertaire. Enfin, anarchiste, c'est l'idéologie comme ça, mais libertaire, c'est quand même plus de mise en pratique, comme on fait ici. Hein. Donc, c'est ça, pour moi, libertaire. Et à ce moment-là, c'est pas si distinct, ça. Je le vois parmi les espérantistes. Celui qui a créé l'association où je suis, la SAT, qui est une association créée en 1921. Il s'appelle l'Anti. Enfin, il s'appelle Eugène Adam, mais il dit l'Anti parce qu'il est anti, il est anti tout, quoi, voilà. Et lui, il crée l'association en 1921. Il est foncièrement, c'est ce que les gens disent, mais moi je commence. Il est libertaire d'abord quand il apprend l'espéranto pendant la Première Guerre mondiale. Mais là, vraisemblablement comme ça, il est communiste, quoi. Il est pour l'application du marxisme et tout ça, vraiment des choses. Il veut du concret. Et alors, quand on crée une association qui s'appelle déjà Association Anationale Mondiale, c'est quand même déjà drôlement politisé, hein. Dire que l'association elle est anationale, c'est quelque chose de très particulier. Qui déjà, pour moi, ne devrait plus concerner des gens qui se disent marxistes, parce que tout ce qui est fait quand même par le marxisme, et puis le communisme après en application, c'est quand même international. C'est international, c'est déjà pas national. Alors lui, il crée ça. Alors quand on crée une association comme ça, et qu'on est très puissant hein, au niveau de son parler, de sa présentation des choses et puis tout, il a une équipe qui est autour de lui quand même. L'année d'après, il y a un congrès. Donc, il se crée pendant un congrès national d'espéranto, mais il crée l'association, et l'année d'après, il y a un congrès. Et l'année d'après, c'est le premier congrès, après être le vrai congrès, il n'est pas là. Il est parti, il prend des contacts sur Saint-Pétersbourg et sur Moscou, et il va en Russie, parce qu'il veut savoir Alors c'est un faux thème en fait, il veut savoir si on va utiliser l'espéranto là-bas ou si on va utiliser l'ido. Il y a une autre langue d'un espéranto un peu amélioré qui vient de se créer aussi. Alors les communistes actuels, parce qu'il y a encore des marxistes, beaucoup, ils disent oui, il est allé là-bas parce qu'il voulait savoir si on allait utiliser cette langue-là ou cette langue-là. Non, en fait l'anti se déplace là-bas, il veut savoir qu'est-ce qui se passe là-bas réellement. En Union soviétique. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, quand il revient, alors donc, il y a un congrès ici, il n'en fait pas partie, parce qu'il a pris son voyage justement pendant le congrès que lui, il aurait dû diriger, même un peu. Il barre là-bas et il part 3 semaines. Voilà. Et quand il revient, il se fait tirer dessus par tout le monde, parce que tout le monde dit, voilà, Tu racontes ton voyage là-bas, ce qui s'est passé, comment tu as vécu, qui t'a rencontré, et tu fais un truc entièrement, primairement anticommuniste. Voilà. Mais lui, après, en 1934, il va réécrire des choses en disant, vous voyez, ce que je vous avais dit, je le dis toujours. Et donc, il a quitté le Parti communiste en France, puisqu'il était affilié aussi au PC. Et voilà, il a fait son... Et c'est pour ça que moi, quand je vois ça, je pense que... C'était pas évident de faire. Alors là, ils se réunissent, effectivement, à la Grange aux Belles, qui est foncièrement d'un côté et puis les autres de l'autre. Qui savait comment ça allait évoluer, tout ça, c'est très très dur. Hein. On peut pas maintenant se remettre dans le. Ou alors un historien, comme toi, sans doute, pour aller dans les papiers, comme moi je fais avec l'association, je vais dans les trucs et puis je lis et puis je me dis, bon bah celui-là, oui, celui-là il a été très... parce que dans le mouvement espérantiste le Comintern il est là quand même, il contrôle tout le Comintern, t'en as parlé du Comintern, hein, l'international communiste, lui il va là-bas et puis quand il revient il dit le Comintern, il se bat avec le Comintern et d'ailleurs il y a un grand leader de l'espéranto qui est là-bas sur Moscou, quoi, et qui est en direct presque avec tous ceux qui ont dirigé l'Union soviétique, quoi. Et il se fait liquider lui-même. Lui aussi, il va se faire liquider par Staline. Staline, il liquide tous ceux qui connaissent Staline, il les liquide. Hein. Donc, lui, il se fait liquider aussi par Staline. Alors, voilà. C'est quand même une sacrée période. Et l'association qui a été créée donc par lui, l'anti, là, le Comintern, il n'arrive pas à mettre la main dessus, parce qu'il y a une grosse équipe en France, notamment, France, Hollande, voilà, et puis il y a quelques Français aussi qui sont là-bas, à Moscou, ou bien en Union soviétique, quoi, et qui font en sorte que ça va être divisé en deux. Le mouvement espérantiste donc du Comintern, lui, c'est lui qui fait la scission. On est 6 000 membres à ce moment-là. On est 500 maintenant hein, dans le monde. On est 6 000 membres à ce moment-là et c'est divisé à peu près en deux. Voilà. Il reste 3 000 membres donc côté ouest, comme on va dire. Et puis là-bas, le Comintern, après, on n'a plus de liaison avec eux. Hein. Les autres, ils vont être complètement... ça va être quasiment fermé dans toute l'Union soviétique pour eux. Hein. Ils sont 3000 là-bas et ils gardent la caisse, évidemment, ils gardent tout l'argent. Enfin, ça se restructure derrière, c'est pas un très gros problème, mais voilà. C'est le côté, pour moi, très très libertaire de l'anti, de ce qu'il a fait au niveau de l'association pour pouvoir continuer et puis évincer les autres. Quoi, ouais.
Alors, pour répondre à ce que tu dis sur la connaissance qu'on peut avoir de la situation en Russie, dès 1919 et plus encore en 1920, il y a un nombre de témoignages extrêmement importants qui paraissent dans la presse syndicale, dans la presse politique, qu'elle soit socialiste, anarchiste ou... pas communiste, mais qui indique très clairement la nature de la répression, le nombre d'arrestations, avec des détails qui sont qui ne laissent pas prêter, qui prêtent pas à confusion. Par exemple, à un des congrès que j'évoquais, le congrès d'Orléans de la CGT 1920, un des responsables de la CGT, donc qui sera majoritaire, pas de la CGTU, qui est Alphonse Mérail, me fait un état détaillé de la répression avec des informations de première main, parce que les informations lui viennent via un canal un peu particulier, elles lui viennent à la fois de Berkman et de Kropotkin. Quelques temps avant sa mort. Donc on a un nombre d'informations extrêmement important. Je prends un deuxième exemple au mois de juin 1921, donc au moment du congrès de Lille de la CGT, toujours, Sébastien Faure, nonobstant de tout ce qu'on peut dire sur Sébastien Faure par ailleurs, mais même malgré son... Enfin, même avec l'opinion négative que peuvent avoir un certain nombre de personnes sur lui, vu son comportement, qui est connu hein, à ce moment-là, vu son comportement, enfin, c'est les violences sexuelles qu'il fait sur les enfants. Sébastien Faure publie un grand article qui dure plusieurs semaines, qui s'appelle « Mon opinion sur la dictature », dans laquelle il explique exactement ce qui vient de se passer. Et on est juste après Kronstadt, et on a des informations, enfin, les gens à ce moment-là ont des informations sur Kronstadt. Je vais prendre un autre dirigeant qui, dès 1920 aussi, qui s'appelle Errico Malatesta. Malatesta, dès la fin de l'année 1920, dit « Maintenant, un peu de clarté, ça suffit, on n'a pas deux, il n'y a pas, on n'est pas tous, enfin, on n'est pas révolutionnaires de la même manière, et la fin ne finit pas par justifier les moyens systématiquement. » Donc, les informations sont en connaissance de cause. Moi, ce qui me semble, c'est qu'un certain nombre de militants considèrent que l'échec de la grève générale, l'échec de toute tentative de mouvement révolutionnaire ayant échoué en 1920 en France, il bascule par souci d'efficacité dans le communisme. Et on a plusieurs exemples de libertaires qui écrivaient dans le libertaire, qui étaient des militants plus ou moins actifs, comme Achille Herclay, comme Fernand Bellugue, ou comme... j'oublie le troisième, Jules Tolade, qui était un militant du bâtiment, qui disent très clairement, oui, on a été anarchiste, mais maintenant, par efficacité, pour faire la révolution, il faut rejoindre le camp du communisme. Après, ça pose un autre terme qui... à ce moment-là, peut-être que la question peut se poser uniquement en termes moraux, mais c'est est-ce que la fin justifie les moyens, hein? C'est cette question-là qui se pose, fin qui justifie les moyens, mais qui fait que dans le mouvement syndical, c'est la vision entre guillemets moscoutaire qui l'emporte, comme dans une partie de l'international espérantiste, en disant bah, le centre de la révolution mondiale est là, ceux qui ont pris le pouvoir c'est les ouvriers en Union soviétique. Ça ne veut pas dire que ce soit vrai, mais c'est perçu comme ça, et à plusieurs reprises on a de toute manière il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'alternative possible, soit on est pour Moscou, soit on est contre. Tous ceux qui sont contre et tous ceux qui vont critiquer à un moment ou à un autre seront, et c'est ce qui arrive à Landy en 21, tous ceux qui sont contre basculent automatiquement dans le camp de la contre-révolution en donnant des arguments bourgeois, etc., etc., etc. Donc, en fait, je pense que dès 20-21, les choses sont claires. Après, dans le mouvement syndical, c'est un peu moins clair, parce que l'objectif d'une organisation syndicale est d'abord de défendre les intérêts matériels et moraux des ouvriers, des salariés, et donc les choses sont un peu moins claires, parce qu'il était encore possible, dans un certain nombre de cas, de participer avec des gens avec qui... Les uns et les autres n'ayant pas grand-chose à voir, mais cet événement de la Grande Jobelle clarifie en... dernier ressort met un terme à la possibilité de participer directement aux mêmes organisations, surtout compte tenu des réactions qui ont pu être faites dans le camp de la majorité confédérale. Je crois que là, il y a des lignes de partage qui sont assez désinformations, qui permettent d'avoir un esprit à peu près clair sur ce qui se passe, et des lignes de partage qui font que tout n'est pas dans tout, et que le militantisme connaît aussi ses limites de fréquentation.
Oui, et puis bon, tous les gens qu'on envoyait en Union soviétique, finalement, quand ils revenaient, il y avait beaucoup qui avaient changé la vie. Hein. On disait toujours, bon, un militant qui veut aller au pays de la Révolution, quand il revient, il est contre. Hein, c'est les communistes hein, qui disent ça. Hein,
Alors, moi, pour le nombre de... C'est plus compliqué, en fait. Ça dépend de la période. Parce que pour moi, alors, il n'y a pas beaucoup de militants qui partent dans les années 1920-1930. Ceux qui reviennent, qui sont déjà militants, ne reviennent pas désillusionnés. Ils reviennent, ils restent assez enthousiastes. C'est après où les désillusions peuvent se faire sur un certain nombre de choses. Par contre, dans les militants qui n'étaient pas enthousiastes en partant, je vais prendre un congrès de l'International syndicale rouge donc, de 1921. Augustin Souchy, qui est un des responsables de la Fédération libre des syndicats allemands, qui est plutôt d'obédience syndicaliste libertaire. Angel Pestana, qui est responsable de la CNT, ou Amedeo Borghi, qui est responsable de l'USI en Italie, donc l'Union syndicale italienne, qui est aussi d'orientation libertaire, reviennent en disant voilà ce qui se passe. On pourrait multiplier Alexander Berkman, Emma Goldman, voilà ce qui se passe. C'est pas ce qu'on espère être la révolution ou le changement de société qu'on attend. Donc il y a dans les types de voyageurs, il y a ceux qui vont revenir avec la même illusion qu'ils avaient ou avaient la même volonté de croire ou la même conviction de c'est en Russie que se fait la révolution. Et ceux qui ont déjà des doutes, voire des défiances, reviennent en se disant c'est pas ce qu'on attend. Après, il y a plusieurs cas de voyageurs qui vont y aller pour avoir des informations. Ça, c'est pour l'entre-deux-guerres. Après, effectivement, les choses changent après 1945, où un certain nombre de personnes qui iront en URSS se rendront compte, surtout après 1953, après la mort de Staline, parce que pour la période stalinienne, il y a peu de voyages encore. Les gens qui se rendent en URSS après 1953, beaucoup reviennent beaucoup plus hostiles que pendant l'entre-deux-guerres, où on a quand même très très majoritairement, sauf cas exceptionnel, si on prend un voyageur relativement connu qui est André Gide, qui fait un retour du RSS, André Gide, il était déjà mis en alerte et il avait déjà un certain nombre d'informations qui lui ont fait porter un regard critique. C'est-à-dire que cette dimension était déjà, enfin, la confiance qu'il y avait était déjà un peu entamée, en fait. Donc, sinon, ceux qui veulent défendre le régime, le voyage ne fait que confirmer. Après, il y a un autre élément qui est qu'un certain nombre de ces militants qui partent en URSS sont des révolutionnaires professionnels. Alors, c'est une catégorie en histoire qu'on appelle les Cominternias. C'est des militants qui, à un degré ou à un autre, travaillent pour les instances du mouvement communiste international et qui en sont parfaitement conscients et partisans.
Une question ?
Oui, tu en as déjà parlé, mais je voudrais préciser un petit peu sur l'impact que ça a pu avoir sur le mouvement syndicaliste. Tu en as déjà parlé, mais pour être plus clair, la question que je me pose, c'est, bon, pour aller très vite dans le courant syndicaliste révolutionnaire, il y avait eu des choix assez différents, notamment il y avait une volonté d'unité syndicale, ce qui avait un certain nombre de syndicalistes qui sont restés à la CGT. Bon, mais c'est pas là le sens de ma question. Et puis arrive effectivement après la révolution russe, les bolcheviks, avec des méthodes bolcheviques qui n'étaient pas forcément connues par le mouvement syndical. Enfin, bon, je passe sur les détails. Et donc, création de la CGTU, comme tu l'as dit. Et il y a quand même quelque chose qui est extrêmement important dans cette période-là, et je voulais savoir c'est l'impact qu'a pu avoir cet événement. Est-ce qu'on peut dire que, pour aller vite, le courant Monat, hein, sachant que Monat n'est pas passé à CGT, son syndicat n'est pas passé, mais il n'empêche, les gens qui se reconnaissaient, c'est quand même quelqu'un d'assez, qu'un leader, je crois, enfin, y compris dans le bon sens du terme, le courant Monat, dans une certaine mesure, a fait alliance dans un premier temps avec les bolcheviques. Bon, je vais très vite, hein, c'est historien, t'en sais plus que moi, mais est-ce que. Et après, évidemment, peut-être que prise de conscience à la Révolution russe, mais au-delà de ça, ils ont rompu cette alliance, mais est-ce que. Je ne sais pas exactement dans la période, est-ce que cet événement-là a eu une importance sur ce que j'appelle le courant Monat dans la compréhension de ce que ça veut dire le bolchevisme dans le syndicalisme?
Pour le courant Monat, absolument pas. C'est-à-dire que quand on regarde les archives Monat, c'est même fou, c'est qu'il a tous les documents, il sait de quoi parlent les autres, et Monat et Rosmer et Godenech et un certain nombre d'autres ne changent pas en 1924. En tous les cas, c'est pas ce qui va les faire changer. Ce qui va les faire changer, alors c'est vrai qu'il y a une concordance calendaire qui est importante, ce qui va les faire changer, c'est que c'est pas eux qui vont avoir la majorité des postes.